www.radioscoop.com.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Orient, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi et Nadia Bencher. Au sommaire de ce point actualité, le président américain Donald Trump reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avec pour objectif d'arracher son accord à un plan de paix pour Gaza. En Serbie, 11 personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'avoir participé à plusieurs opérations en France et en Allemagne, incitant à la haine, notamment en plaçant des têtes de cochon près de mosquées, selon la police. En France, les organisations d'auto-écoles et d'inspecteurs du permis de conduire, mobilisées ce lundi à Paris pour réclamer plus de place à l'examen, comptent mener d'autres actions en région chaque lundi, selon des représentants. Le président américain Donald Trump reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avec pour objectif d'arracher son accord à un plan de paix pour Gaza. Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial. Une première, a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social. Et le roi Abdallah II de Jordanie a confirmé un large consensus arabo-musulman autour de la proposition américaine. Dans un tout autre volet, l'Iran a dénoncé le rétablissement de sanctions onusiennes et a annoncé l'exécution d'un homme accusé d'espionnage au profit d'Israël. C'est le sujet de notre dossier du jour à suivre. Et dans le reste de l'actualité, 11 personnes ont été arrêtées en Serbie, soupçonnées d'avoir participé à plusieurs opérations en France et en Allemagne, incitant à la haine, notamment en jetant de la peinture verte sur le musée de l'Holocauste, plusieurs synagogues et un restaurant juif, et en plaçant des têtes de cochon près de mosquées, selon la police. Dans un tout autre volet, près de 400 migrants ont été secourus ce week-end lors de multiples opérations de sauvetage au large des côtes du Nord, du Pas-de-Calais et de la Seine-Maritime, qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune, selon les autorités françaises. Et enfin, les organisations d'auto-écoles et d'inspecteurs du permis de conduire, mobilisées ce lundi à Paris pour réclamer plus de place à l'examen, comptent mener d'autres actions en région chaque lundi, selon des représentants. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Place au dossier du jour. C'est un retour en arrière lourd de conséquences. 10 ans après leur levée, les sanctions internationales sont de nouveau imposées à l'Iran. L'Union européenne a confirmé leur rétablissement à la suite d'une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. En cause, les violations répétées par Téhéran de l'accord sur le nucléaire signé en 2015. Cette réactivation automatique des mesures punitives porte un nom, le mécanisme de snapback. En quoi consiste-t-il, Nadia Bencher?
Ce dispositif inédit avait été prévu dans la résolution 2231 de l'ONU qui encadrait l'accord de Vienne. Il permet à n'importe quel signataire de l'accord de saisir le Conseil de sécurité en cas de non-respect des engagements. Faute de consensus dans un délai de 30 jours, les sanctions sont automatiquement rétablies sans possibilité de veto. C'est ce qu'ont fait fin août la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, accusant l'Iran d'avoir accumulé un stock d'uranium enrichi 40 fois supérieur à la limite fixée par l'accord.
Alors, quelles sont ces sanctions qui tombent de nouveau sur l'Iran ?
Concrètement, les sanctions visent les entreprises, entités et individus liés au programme nucléaire iranien et au développement de missiles balistiques. Elles rétablissent aussi l'embargo sur les armes, les restrictions bancaires et le gel des avoirs de la Banque centrale. Si l'impact économique est limité, l'Iran est déjà étranglé par les sanctions américaines et européennes, l'effet symbolique est fort. À Téhéran, le rial s'est effondré à un plus bas historique et la population redoute une flambée des prix.
Et comme on pouvait s'y attendre, la réaction iranienne ne s'est pas fait attendre.
Pour les Occidentaux, en effet, le but affiché reste d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, mais à Téhéran, le président Massoud Pezeshkian dénonce des sanctions injustifiables et illégales, accusant l'Europe et les États-Unis de mauvaise foi, La Russie et la Chine, elles, s'opposent au snapback. Entre accusations de part et d'autre et diplomatie au point mort, une certitude demeure. Ce retour des sanctions marque une nouvelle étape dans le bras de fer entre l'Iran et l'Occident, avec en toile de fond le risque d'une escalade régionale.
Merci beaucoup Nadia Bencher pour toutes ces précisions. Et dans la foulée, Berlin, Londres et Paris ont demandé à Téhéran de ne pas aggraver la situation, tandis que Washington a appelé l'Iran à accepter des pourparlers directs. Éclairage avec Kevan Gafaiti, enseignant à Sciences Po Paris et président de l'Institut des Relations Internationales et de Géopolitique. Ces sanctions peuvent-elles freiner le programme nucléaire iranien ?
Est-ce que les sanctions ont réellement un rôle ? Écoutez, vous avez énormément d'études politiques, mais aussi statistiques et mathématiques, qui démontrent que les sanctions économiques, en général, pas spécifiquement vis-à-vis de l'Iran, sont globalement assez inefficaces, en effet presque nulles, voire contre-productives, puisqu'elles sont en fait autoconfirmatives. Elles vont confirmer, entre guillemets, le récit de certains États, à l'image de l'Iran, qui va dire « Mais regardez, si nous sommes en difficulté, c'est parce que le monde est contre nous, et les sanctions viennent en fait conforter la position, et donc peut-être même crisper les positions iraniennes. Donc l'efficacité des sanctions économiques, moi je la mets énormément en doute. Maintenant, quels sont les garde-fous ? Eh bien, ces garde-fous sont particulièrement minces, puisque vous le savez, l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, a des relations très fluctuantes, et là nous sommes vraiment dans une situation où les relations sont particulièrement froides, gelées, entre l'Iran et l'AIEA. Donc vous avez très peu de contrôle. Officiellement, il est vrai, il y a des enquêteurs de l'AIEA. Récemment, vous aviez une déclaration du président de l'AIEA, Raphaël Grossi, qui disait comment il y avait des inspecteurs et il n'a pas révélé, car c'est confidentiel, le lieu des inspections. Et donc, il faut voir que vous n'avez que des inspecteurs de l'AIEA, absolument pas des enquêteurs qui interviennent au titre de délégations européennes ou américaines. En résumé, bien peu de contrôle.
Et quelles conséquences pour les deux pays ennemis déclarés, l'Iran et Israël ?
Alors, quelles conséquences ? Il faut voir que maintenant, on est dans un contexte où le verrou psychologique et politique de la conflictualité directe entre Israël et l'Iran a complètement été levée depuis l'attaque israélienne du vendredi 13 juin 2025. On le rappelle, illicite au regard du droit international. La question est donc plus est-ce qu'il va y avoir un retour de la conflictualité entre l'Iran et Israël, mais quand est-ce qu'il va y avoir un retour de la conflictualité ? Dans le cadre où vous n'avez pas d'accord, où vous n'avez pas de négociation en tant que telle, eh bien Israël peut peut-être envisager de nouveau une action militaire comme étant, selon lui, la seule voie pour endiguer les activités nucléaires de l'Iran, puisque pour Israël, le programme nucléaire de l'Iran est exclusivement militaire. Donc on est dans une situation qui est particulièrement inflammable. On l'a vu en juin et on pourrait très vraisemblablement estimer que c'est un scénario qui va se reproduire.
On l'a vu en juin avec l'appui direct et concret des États-Unis.
Absolument, absolument. Il faut voir, et vous le savez, Israël a pour partenaire stratégique premier et principal les États-Unis d'Amérique et vice-versa. Les États-Unis d'Amérique ont certes des partenaires stratégiques avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, mais leur premier partenaire au Moyen-Orient, c'est bien Israël. On l'a bien vu typiquement comment les États-Unis n'ont pas réagi à l'attaque israélienne sur le sol qatarien, par exemple. Donc pour les États-Unis, il y a presque, une voie commune, un destin qui est complètement lié entre les deux États. C'est-à-dire que si Israël était dans sa survie menacée, eh bien les États-Unis, du fait de leur partenariat stratégique et politique et particulièrement interpénétré, seraient presque dans l'obligation d'intervenir, et avec une certaine largesse, il s'agissait d'autant plus de l'Iran, un État particulièrement honni à Washington.
C'était Kevan Gafaiti, enseignant à Sciences Po Paris et président de l'Institut des Relations Internationales et de Géopolitique. C'était le dossier du jour. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.